à éliminer, c'est facile.
Voilà, exactement. Mais ça sera pas éliminé.
Bon, ben, comment ça se passe? On attend le patron, la patronne. C'est un chef ou une chef que vous avez? Mais tout le monde est là?
Mais il est parti accompagner qui
était. Ah, oui, c'est un ancien.
Il est parti où?
Toilette.
Ah, mais je crois que Marie-Louise voulait venir, du coup, il va peut-être la chercher.
Ah, peut-être.
On va attendre, hein.
Bon,
qu'est-ce qu'on fait? Non, on n'attend pas. On commence. On pose des questions.
On va être en retard après, donc.
Nom du Père, comment c'est? Du Fils, du Saint-Esprit. Créateur ineffable.
D'ailleurs, il n'importe votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Chassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la bénédiction pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour exprimer. Et dès le commencement de mon travail, dirigez-moi en progrès, pour mes enfants, par l'Esprit Saint-Seigneur.
Saint-Lazare, priez pour Jésus. Sainte Madeleine,
priez pour Jésus.
Sainte Marthe,
priez pour Jésus.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui se tient.
Et alors?
Oh, il y a micro et tout ça. Vous êtes sûr qu'il y a besoin du micro?
Ça sert à rien, vous voulez. L'expérience paraît suffisamment forte.
Vous êtes, le chapitre Saint-Lazare.
Oui,
mais je te connais, toi. Tu es un pélicier. D'accord. Mais pourquoi tu es avec les Parisiens? Parce que tu as.
En fait, j'ai pas de vacances. Mieux, et c'est la seule semaine que je passe, que je suis en semaine de révision, j'aurai cette semaine-là. Donc c'est la semaine où. Je...
Mais c'est où que tu fais tes études?
Je suis à Aix.
D'accord.
D'accord.
Oui, je suis le seul, du coup, en fait.
D'accord. Tu es le local de l'étape. Bien. Bon, ben bonjour à tous. Alors, je vais peut-être commencer par les présentations parce que, comme je ne suis absolument pas pressé d'attaquer ce topo que je fais pour la première fois, il faut que je fasse un petit peu durer. Non, je plaisante. Donc, je suis Julien Langard. Vos visages me sont à peu près complètement inconnus. Pour faire simple, il y a à peu près 20 ans, 18 ans de cela, j'étais à votre place, puisque je fais partie des fondateurs du chapitre Sainte-Madeleine. Dans les années 1998-99, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Donc, j'interviens, pas chaque année, mais presque dans les SFA pour partager mon expérience et pour partager aussi mes modestes connaissances, puisque je suis professeur d'histoire, donc à Carpentras, j'enseigne en lycée. J'ai 37 ans, bientôt 38, je suis marié, j'ai 6 enfants. Et que vous dire de plus, qu'en ce moment je suis très très pris par les campagnes présidentielles parce que j'ai des responsabilités politiques, je suis conseiller municipal de Carpentras. Mais j'ai réussi à prendre un petit peu de temps pour vous faire un topo donc sur ce que moi je vais appeler le marxisme-léninisme. L'intitulé de votre topo, c'est, que je le retrouve, le communisme de la révolution russe à aujourd'hui. Alors je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, parce que ce serait très long, très rébarbatif. Je vais plutôt analyser en fait ce qu'est le communisme, à travers son idéologie, à travers ses implications philosophiques. Et j'essaierai de raccrocher tout ça à notre monde actuel en une heure. Donc je vous demande votre bienveillance, parce que je crois que c'est la première fois que ce topo est fait au chapitre. Quand nous étions à votre âge, l'URSS s'était déjà effondrée, en 1991. Le mur de Berlin, n'en parlons pas, il est tombé en 1989. Et c'est vrai qu'avec l'effondrement des idéologies, avec l'effondrement des grands totalitarismes qui ont marqué le XXe siècle, la question du communisme peut ne plus paraître aussi pertinente qu'elle le fut autrefois. Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes beaucoup plus attentifs aux problématiques de l'islamisme, aux problématiques du relativisme intellectuel et moral. Mais le communisme, étudier le communisme peut quand même nous aider à mieux comprendre certaines choses aujourd'hui. Alors j'aurais juste besoin de savoir à qui je m'adresse. C'est-à-dire, grosso modo, vous êtes encore lycéen, vous êtes déjà étudiant, est-ce qu'il y en a qui travaillent déjà ? Il y a un peu de tout.
Ça va du lycée jusqu'au
stage. Bon, qui est encore au lycée ? D'accord, vous deux. Donc vous êtes vous êtes les Jones. Et vous, ça fait trois. Est-ce qu'il y a des étudiants ? Ok, des étudiants. Des scientifiques ? Ok, un scientifique, c'est... Félicitations. Et les autres, vous êtes plutôt des lettrés, alors. Qui fait des études d'histoire ? Ok, vous en êtes où ?
Deuxième
année, donc normalement, vous serez pas trop perdu. Il y en a qui ont fait de la science politique ou de la philosophie ? Ouais, c'est écrit sur votre t-shirt, Sciences Po. Ouais. Okay.
Non, on fait du commerce.
Oui, d'accord. Bien. Alors... Donc, un petit rappel pour vous contextualiser le topo. Je vais peut-être m'asseoir. J'ai l'habitude de faire court debout, mais là, c'est un peu magistral pour moi. Alors, petit rappel historique, 1917. 1917, vous l'avez compris, nous commémorons cette année les 100 ans de la Révolution russe. Je devrais parler des révolutions russes au pluriel, parce que il y a eu en 1917 deux révolutions importantes, ce qu'on appelle la révolution de février qui a mis fin au régime tsariste, hein, qui était un régime autocrate, et la seconde révolution, celle d'octobre, qui s'appelle plus précisément la révolution bolchevique, l'ancien nom du parti communiste russe en fait, et qui va être l'œuvre d'un petit noyau d'activistes dont le plus connu est leur chef, Vladimir Ilitch Ulyanov, sous son nom de révolutionnaire, Lénine. Alors, cette révolution russe, elle ne tombe pas du ciel, même si pour les Russes, c'est un véritable cataclysme, elle n'est qu'une conséquence directe, dans l'ordre événementiel, du profond bouleversement qu'est la Première Guerre mondiale. Ceux qui, parmi vous, ont fait des études d'histoire savent que le XXe siècle commence en 1914 et que la Première Guerre mondiale est la matrice, vraiment la matrice au sens propre et au sens figuré, de l'histoire politique et géopolitique du XXe siècle, puisque la naissance des totalitarismes en Russie, en Allemagne et la Seconde Guerre mondiale, en fait, ne sont que les bébés de cette Première Guerre mondiale. Donc le monde... moderne, enfin le monde contemporain, le XXe siècle va naître en 1914, et c'est dans ce contexte de perturbation, de bouleversement, que va éclater la révolution russe. Alors, cette révolution russe, cette révolution bolchevique, elle est pour nous un premier enseignement, à savoir qu'un groupe de personnes ultra-minoritaires va réussir à prendre le pouvoir dans un pays où la majorité de la population ne partage pas leurs idées. Pour vous rappeler comment se met en place le régime bolchevique, en février, vous avez une première révolution donc qui renverse l'ancien régime, qui renverse le tsar Nicolas II. Mais à ce moment-là, la Russie est toujours en guerre et vous avez des socialistes modérés qui arrivent au pouvoir à ce moment-là en Russie, qui veulent mettre en place un régime de type parlementaire, une démocratie libérale, sur le modèle des pays occidentaux, comme la France, par exemple. Mais la guerre continuant, eh bien, ils vont très vite être dépassés par le pourrissement de la situation, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan social. Et dans ce contexte de troubles, eh bien, vous avez une petite minorité, qui arrive à prendre le pouvoir, qui va instrumentaliser la grogne sociale, qui va instrumentaliser la grogne des catégories les plus modestes, qui va instrumentaliser la grogne sociale, par exemple, des paysans qui veulent posséder des terres, des ouvriers qui sont les victimes de l'industrie naissante et des conditions de travail particulièrement difficiles que vous connaissez, qui vont instrumentaliser également la grogne des soldats. Bref, un petit groupe de personnes prend le pouvoir et va mettre en place donc, ce qu'on va appeler plus tard l'URSS. Autre raison qui a poussé le père François de Sales à me demander de traiter de ce sujet, c'est qu'en 1917, nous commémorons aussi le centenaire des apparitions mariales à Fatima. En effet, ces apparitions sont liées, en tout cas on peut y voir un lien avec les événements dont j'ai fait allusion tout à l'heure, puisque le 13 juillet 1917, alors que la Vierge vient de favoriser les enfants de Fatima de la vision de l'enfer, alors ça peut paraître paradoxal, favoriser les enfants de Fatima d'une vision de l'enfer, je ne sais pas si c'est une faveur de voir l'enfer, mais bon, c'est le terme que l'on emploie généralement. Et après cette vision, la Vierge va aussi leur annoncer secrètement la fin de la guerre mondiale. À cette époque, on ne dit pas encore la première guerre mondiale, parce qu'il n'y en a eu qu'une. Donc on dit la guerre mondiale. Et elle leur dit la phrase suivante. Donc la guerre n'est toujours pas terminée, nous sommes en 1917. « Si on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne du pape Pie XI, commencera une guerre autrement plus grande. Dieu va punir de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Dieu va punir le monde, pardon, de ses crimes par le moyen de la guerre, de la faim et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. » C'est sœur Lucie qui raconte cette vision dans ses mémoires. Et toujours selon sœur Lucie, eh bien, la Sainte Vierge aurait donné les moyens d'éviter cette catastrophe en disant pour empêcher cette guerre, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et en aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés. Le Saint-Père aura beaucoup à souffrir. Plusieurs nations seront anéanties. Donc un message pour le moins inquiétant. Vous l'avez compris. C'est dans le texte, les extraits que j'ai retirés du témoignage de sœur Lucie. Alors j'ai amené avec moi quelques manuels parce que mes souvenirs d'université risquaient de ne pas être suffisants pour traiter de ce topo. Le livre que je tiens dans mes mains, que vous connaissez peut-être, Le Livre Noir du Communisme, a été publié il y a bientôt 20 ans, puisqu'il est sorti 80 ans après la révolution d'octobre 1917. Donc il est sorti en 1997, j'étais encore étudiant à l'époque. Peut-être que vous connaissez cet ouvrage. C'est un gros pavé, donc il n'y a pas beaucoup d'images. Il y en a un petit peu au milieu, mais c'est tout. C'est une somme qui, à l'époque, a été assez novatrice, parce que, pour la première fois de l'histoire contemporaine, eh bien, des historiens, des universitaires, pas des militants politiques, mais des universitaires, ont abordé publiquement les crimes du communisme. Et ont abordé ces crimes d'une manière assez novatrice, puisque le régime totalitaire que fut le communisme, en Russie mais ailleurs, eh bien, est abordé sur le même plan, en quelque sorte, que ce que fut le totalitarisme national-socialiste en Allemagne, à savoir un régime totalitaire meurtrier, de par l'ampleur de sa répression. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement nouveau. Parce que, après la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'aux années 80, mais même surtout après la chute de l'URSS, il était impensable, intellectuellement, en France et en Europe, eh bien, de mettre sur le même plan les deux totalitarismes que furent le communisme et le nazisme. Parce qu'une partie de l'intelligentsia française et européenne était imbue et formée par le communisme. Et donc, l'URSS faisant partie des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, il était en quelque sorte un peu tabou de pointer du doigt les crimes des deux, enfin plutôt des régimes communistes. 85 millions de victimes, c'est le montant, hein, je dirais, astronomique des crimes commis par cette idéologie politique. Et c'est vrai que ce livre fera beaucoup, couler beaucoup d'encre. Alors moi, je vous le conseille, notamment la partie sur l'URSS, parce qu'en fait, il dresse un peu un inventaire, pays par pays, des crimes du communisme. La majorité du livre porte sur l'URSS. On y voit, par exemple, très clairement que, à partir des archives de l'URSS, que le communisme a commencé à tuer et assassiner bien avant la période de Staline. Souvent, on entend dire que la période stalinienne est une sorte d'accident de l'histoire du communisme, mais que, à l'origine, le communisme partait d'un bon sentiment, d'une idée généreuse, et qu'il aurait été déformé par des dictateurs comme le furent Staline ou Mao. En réalité, on voit, en lisant ce livre, que dès 1917, eh bien, avant même l'éclosion de la guerre civile en Russie, entre les Rouges et les Blancs, eh bien, la répression de masse, l'impulsion criminelle du régime était bien présente. Et en fait, Staline ne fait que reprendre l'héritage d'une dictature lorsqu'il arrive au pouvoir à la fin des années 20. Donc le bilan du communisme, je ne vais pas m'arrêter dessus parce que je vais vous assommer par les chiffres, et puis ils sont macabres, mais retenez au moins dans les grandes lignes quelques chiffres. Le communisme en URSS, ce sera à peu près 15 millions de victimes. Mais ce n'est pas en URSS que le communisme a le plus tué, c'est dans la Chine de Mao, puisque là, la fourchette est bien plus importante. La fourchette vacille entre 50 et 70 millions de victimes, uniquement pour la Chine, auquel il faut ajouter une particularité, c'est qu'en plus de l'assassinat de masse, il y avait un projet bien particulier de vouloir rééduquer une société tout entière. Cependant, la palme de la folie la plus meurtrière ne revient ni à la Chine ni à la Russie, elle revient à un petit pays qui s'appelle le Cambodge, qui, entre 1975 et 1979, eh bien, a subi le régime particulièrement meurtrier des Khmers rouges, effectivement, qui, sur un pays de un tout petit pays, hein, d'environ 7 millions d'habitants, eh bien, ont assassiné entre 1,3 et 2,3 millions de personnes, c'est-à-dire à peu près le quart, 25% de la population, c'est quelque chose d'absolument considérable. Voilà pour vous donner quelques chiffres, mais je vais m'arrêter là avec les chiffres. Ce qui nous intéresse plus dans ce topo, je pense, ce sont les fondements intellectuels du communisme, et surtout, quels sont les aspects qui viennent s'opposer et même combattre ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que catholiques, nous avons à défendre et à annoncer au monde. Alors effectivement, contrairement à très répandu, même chez les intellectuels, et même surtout chez les intellectuels, le marxisme n'est nullement une simple solution au problème économico-social. Ce n'est pas qu'une grille de lecture économique du monde. Vous avez certainement entendu parler, en faisant vos études, hein, de ce qu'était le communisme sur le plan économique, suppression de la propriété privée, nationalisation des outils de production, importance considérable de l'État. Mais le communisme, ce n'est pas qu'une approche économico-sociale. Le marxisme, c'est une conception du monde à lui tout seul. C'est un système totalitaire, je l'ai dit tout à l'heure, mais comprenez le mot totalitaire, non pas dans le sens d'une dictature, mais dans un système qui tend à l'unité, c'est-à-dire qui englobe tout le champ, tous les domaines d'activité, tout l'ensemble du champ social. Donc c'est une conception du monde à lui tout seul, c'est-à-dire à la fois un système économique, ça on le sait, mais aussi une théorie de la connaissance, une philosophie de l'histoire, une morale, hein, une esthétique, c'est tout cela à la fois. Il existait un art officiel en URSS, tout le champ des activités humaines, eh bien, peut être intégré à l'intérieur de l'idéologie du marxisme. Donc c'est pour ça que je commencerai cette conférence, cette première partie. Donc voilà, je viens de terminer l'introduction. Je commencerai la première partie de ce topo en vous parlant des origines intellectuelles du marxisme. Pour connaître un arbre, il faut regarder d'abord du côté de ses racines. Et dans les origines intellectuelles du marxisme, on a un premier courant idéologique qui est apparu au XIXe siècle, dans le sillage de la révolution industrielle. C'est ce qu'on a appelé le socialisme scientifique. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Le socialisme scientifique, c'est une forme de socialisme que l'on oppose le plus souvent aux socialistes utopiques. Je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce que le socialisme scientifique ? C'est l'idée de créer une société parfaitement rationalisée, parfaitement rationnelle, où la raison serait en gros l'alpha et l'oméga qui dicterait l'organisation sociale. Donc imaginez un univers entièrement domestiqué par l'homme. Cet attachement à la raison et à la science, que l'on appelle aussi scientisme, va naître notamment en France dans des esprits hein, parfois brillants comme Saint-Simon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les premières formes de socialisme étaient surnommées socialisme utopique, parce que les premiers socialistes, comme Fourier ou Proudhon, eh bien, eux projetaient une société idéale. Prenez par exemple un philosophe français comme Fourier, qui va écrire un ouvrage qui s'appelle Le Phalanstère. Ça dit quelque chose, Le Phalanstère ? En gros, il va essayer de théoriser un monde parfait, une organisation sociale parfaite, et il imaginait par exemple que l'on redécouperait le pays par territoires qui correspondraient à des unités de production, qu'il y aurait des fermes collectives avec tel nombre de fermiers, tel nombre d'habitants, etc. Et que cette organisation sociale, extrêmement rationnelle, eh bien, contribuerait au bonheur de l'homme. Parce que dans le sillage de la philosophie des Lumières, eh bien, on considère que c'est la science et non plus Dieu qui va apporter le progrès à l'humanité. Et le marxisme a, dans ses origines intellectuelles, cette référence au socialisme. Donc le socialisme scientifique, je le répète, hein, c'est une forme de pensée qui est fondée sur une analyse prétendument scientifique des réalités sociales, des réalités historiques et économiques. Voilà pour la première influence intellectuelle. Autre influence intellectuelle très importante, c'est le darwinisme. Puisqu'au XIXe siècle, Darwin formule sa célèbre théorie, la théorie de l'évolution, et les pères fondateurs du marxisme, que sont Marx et Engels, vont être enthousiasmés par deux éléments très importants de la pensée darwinienne. C'est tout d'abord la concurrence vitale, hein, la concurrence entre les espèces pour vivre, et surtout la lutte pour la vie. La lutte pour la vie, la concurrence vitale, hein, ce que les Anglais appelleraient le struggle for life, eh bien, cette notion très importante dans le darwinisme va se retrouver dans le marxisme et donnera lieu à la formulation de la, de la thèse de la lutte des classes. Bien. Autre élément important, et ce sera le troisième et dernier élément important dans les origines intellectuelles du marxisme, c'est l'athéisme. L'athéisme est vraiment consubstantiel au marxisme. En effet, c'est donc l'athéisme formulé par exemple par Feuerbach et sa fameuse théorie de l'aliénation. Alors, quelle est cette théorie de l'aliénation ? Eh bien, c'est que l'homme, l'être humain, préfère se dépouiller de son autonomie pour en gratifier des fictions, hein, telles par exemple l'idée de Dieu. Marx et les communistes disaient que la religion est l'opium du peuple et qu'en gros la religion ce serait une invention destinée à faire oublier ses malheurs aux êtres humains, à l'humanité, pour rêver d'un monde sans souffrance, d'un après, hein, d'un paradis, afin de mieux se cacher les misères d'ici-bas. Donc l'athéisme est une des racines les plus profondes du marxisme. Je voudrais vous faire partager quelques analyses formulées par Jean Housset, notamment sur l'athéisme et le matérialisme profond qui est à l'origine du marxisme. Donc je vous cite quelques passages, je ne vais pas lire beaucoup, hein, rassurez-vous, surtout que là c'est bientôt l'heure de la sieste, n'est-ce pas ? Alors, contrairement à l'idéalisme qui considère le monde comme l'incarnation de l'esprit universel, de l'idée absolue, eh bien le matérialisme de Marx part de ce principe que le monde, de par sa nature, est matériel. Le monde est totalement et uniquement matériel. Et les multiples phénomènes de l'univers, eh bien, en fait, sont les différents aspects, et uniquement les différents aspects de la matière en mouvement. Le monde se développe suivant les lois du mouvement de la matière et l'esprit. Hein, l'esprit, en fait, n'existe pas. Engels disait que notre conscience et notre pensée, pour transcendantes qu'elles nous paraissent, ne sont en fait que le produit d'un organe matériel, corporel en quelque sorte, à savoir notre cerveau. Nous imaginons la pensée, mais en réalité la pensée n'est que le fruit de notre cerveau qui lui-même est matériel. Autre exemple, et là c'est Lénine qui parle, les concepts, les abstractions sont les produits les plus élevés de notre cerveau, mais qui n'est lui-même que le produit le plus élevé de la matière. Pas de matière, pas de cerveau, pas de cerveau, pas d'abstraction. Et en quelque sorte, c'est toujours Lénine qui parle, le tableau du monde est un tableau qui montre comment la matière se meut et comment la matière pense. Autre exemple, encore une citation, et je terminerai là-dessus, je ne vais pas vous bassiner de citation de Marx. Le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. Alors, ce matérialisme et cet athéisme profond qui caractérise le marxisme fait que, dès les origines, le marxisme va entrer en guerre contre la notion de religion, en général, mais contre une religion bien particulière, et cette religion, vous la connaissez, puisque c'est la nôtre, il s'agit du catholicisme. Lénine disait que Dieu est l'ennemi personnel de la société communiste. Je le répète, une citation de Lénine, « Dieu est l'ennemi personnel ». Il parle d'ennemi, le terme n'est pas neutre, « l'ennemi personnel de la société communiste ». Cela signifie que l'attitude du marxisme vis-à-vis de la religion va être dictée par la logique même de cette haine de Dieu. Et plus le système religieux, plus la religion aura un caractère dogmatique marqué, eh bien, plus ces références métaphysiques seront solides, plus cette religion sera détestée par le marxisme. Les vagues foi religieuses, subjectives ou modernistes seront certes combattues également par le marxisme, mais elles seront beaucoup moins combattues que la foi catholique, que ce que je dirais l'orthodoxie catholique, parce que le dogmatisme étant important dans la foi catholique, eh bien, il était d'autant plus important de combattre cette religion. Donc je vous disais, je répète, bien qu'hostile en principe à toute religion, le marxisme en déteste une plus particulièrement, c'est la religion catholique. Voilà pour les origines intellectuelles du marxisme. Je voudrais maintenant vous parler maintenant du fond du sujet, à savoir... Qu'est-ce que le marxisme ? Quel est son contenu idéologique ? Premièrement, l'idéologie marxiste se base, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une conception matérialiste de l'histoire humaine. Et là, ça intéressera plus particulièrement ceux qui étudient l'histoire parmi vous. Il y a plusieurs grilles de lecture de l'histoire, de l'humanité. Le marxisme possède sa propre grille de lecture, c'est celle du matérialisme historique. Cette grille de lecture a été développée par Marx et Engels, et plus particulièrement Engels. Et à travers cette grille de lecture, eh bien, il est donné à l'économie un rôle primordial dans l'évolution de l'histoire de l'humanité. Donc pour les marxistes, en gros, la force de l'histoire la plus importante, la force qui fait écrire l'histoire, renverser les empires, éclater les révolutions, c'est la force économique. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas la foi, je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure, c'est la dimension économique. Dans cette approche, donc marxiste, vous devez comprendre, en conséquence, que c'est le mode de production de la vie matérielle qui détermine le processus social, politique et intellectuel de la vie. Je répète, ça c'est très important, c'est le mode de production de la vie matérielle, en gros, comment est organisée l'économie, comment sont organisés et répartis les outils de production, eh bien, qui déterminent le processus social, politique et intellectuel de la vie. Le déroulement de l'histoire est donc commandé par l'évolution des conditions de production. Le déroulement de l'histoire est donc commandé par l'évolution des conditions de production. Et l'évolution des conditions de production est elle-même commandée par quoi ? Par les progrès. Exactement, par les progrès scientifiques et techniques. Les progrès de la science modifient les conditions de production, et les conditions de production, eh bien, en gros, contribuent à écrire l'histoire de l'humanité. C'est pour ça que l'une des premières phrases du manifeste du Parti communiste est la phrase suivante que vous connaissez. L'histoire de l'humanité se résume à l'histoire
du progrès matériel.
Ça, vous devriez savoir, vous, par contre. L'histoire de l'humanité se résume à une seule histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes. C'est l'histoire de la lutte des classes. Pour Marx, il fait une lecture historique, par exemple, l'Antiquité, en gros, elle est résumée entre la lutte, par la lutte entre les esclaves et les propriétaires. L'histoire médiévale, elle est résumée par la lutte entre les serfs et les nobles. Et au XIXe siècle, l'histoire, eh bien, elle est résumée par la lutte entre le prolétariat, hein, la classe ouvrière, qui est née dans le sillage de la révolution industrielle, et en face, la bourgeoisie qui possède les outils de production, qui possède le capital, c'est-à-dire les outils de production, les usines, les mines, les moyens de transport, bref, tout ce qui participe des outils de production.
Comment justifie les guerres entre rois ou de même classe ?
Les guerres entre rois, en fait, ne sont, de manière détournée, qu'une lutte entre ceux qui ne possèdent pas et ceux qui veulent posséder. Et ça, c'est une phrase hein, qui a fait couler beaucoup d'encre. L'histoire de l'humanité, elle se résume à l'histoire de la lutte des classes. Ni plus, ni moins. C'est ce que l'on appelle le matérialisme historique. Donc, en philosophie, quand on parle de matérialisme historique, on pourrait parler, c'est une forme de déterminisme où on considère que les forces profondes hein, qui déterminent l'évolution de l'histoire, ce sont des forces d'ordre économique. Moraz disait que tout est politique, eh bien, un communiste va dire tout est économique. Voilà. Ni plus, ni moins, de manière un peu simple, voilà comment est-ce qu'on pourrait résumer la situation. Alors, il est intéressant de noter que c'est en Russie que va apparaître, pour la première fois, un pays et un État se réclamant de l'idéologie du marxisme, alors qu'en 1917, la Russie, que l'on surnommait le colosse au pied d'argile, est un pays très en retard sur le plan industriel. La Russie possède une classe ouvrière numériquement très faible par rapport à ce que possède l'Allemagne ou le Royaume-Uni à la même époque. Donc ça peut être un premier paradoxe qui, effectivement, Marx n'aurait jamais imaginé que un État communiste apparaisse d'abord en Russie parce que c'était un pays très en retard sur le plan industriel. Alors, donc je vous ai, pour résumer ce que j'ai dit, l'évolution de la société, elle est donc commandée par la contradiction entre d'un côté les possibilités de production, hein, le PIB, les richesses que l'on peut produire, qui elles-mêmes dépendent du progrès technique, et de l'autre, les rapports de production, c'est-à-dire les rapports de propriété et de redistribution de la richesse. D'un côté, on a la quantité de biens potentiellement productibles, et de l'autre, la manière dont on va répartir tout ça dans la société. Alors j'en vois qu'ils font un peu la grimace, ne soyez pas étonnés, c'est la partie un peu compliquée hein, du topo. Donc dans cette optique, le moteur du déroulement de l'histoire, c'est la lutte des classes. Je répète ce que je vous ai dit, mais j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment au cœur du marxisme. Donc pour Marx, dans sa critique du système capitaliste qui est alors en place depuis l'émergence de l'industrie, eh bien, on a d'un côté la bourgeoisie qui possède le capital et qui exploite le prolétariat à la fois économiquement mais aussi politiquement parce que la bourgeoisie, selon Marx, détient les rênes de l'État. Alors, comment faut-il faire pour régler cette situation d'exploitation du prolétariat selon Marx? Eh bien, dans la vision marxiste, pour détruire le capitalisme et atteindre le socialisme, alors le socialisme, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un âge d'or où il y aurait une disparition de ces différentes classes sociales. Le but à atteindre pour le communiste, c'est le socialisme. D'ailleurs, l'URSS ne s'appelait pas Union des Républiques communistes soviétiques, mais Union des Républiques socialistes soviétiques. Les communistes se disent socialiste. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence entre un socialiste et un communiste? Puisque le communiste, lui, il veut arriver à l'état du socialisme.
C'est la différence entre la perception de ce que c'est le socialisme.
C'est la forme.
Le socialisme, en fait, c'est le moyen d'accéder au communisme. Le communisme, en soi, n'a jamais été appliqué, au final.
Est-ce que c'est pas un différent point de vue de la part des personnes sur le socialisme? Parce que pour les socialistes, c'est pas... C'est lutter pour les droits. C'est pas la même forme,
alors, ce qu'on appelle le socialisme, au sens propre et étymologique, c'est une société sans classe sociale. Le socialisme, c'est la suppression des différences de classe, donc il n'y a plus de bourgeoisie, il n'y a plus de prolétariat, il y a une dimension utopique, c'est pour ça que les premiers socialistes étaient surnommés les utopistes, parce qu'ils voulaient une société idéale, c'est-à-dire sans pauvres, sans exploitation, etc., un monde parfait où il n'y aurait ni pauvres, etc. Alors, quelle est la différenciation que l'on fait encore aujourd'hui entre les socialistes et les communistes? Puisqu'en fait, ils ont le même objectif. Pourquoi est-ce qu'on les différencie par ce terme?
Le communisme dominé par un coup de force.
Oui, il y a les révolutionnaires et les réformistes.
Exactement. Les socialistes, à partir du 19e siècle, on va les appeler les socialistes réformistes, puis les sociodémocrates. Hein, c'est encore le nom qu'ils ont, par exemple, en Allemagne. Donc, nous, en France, on continue à avoir un parti socialiste, mais en Allemagne, on parle plutôt de sociodémocrates. Ils considèrent que l'objectif est toujours une société sans classe, mais que pour arriver à cet objectif idéal, eh bien, le jeu démocratique, en gros les élections, suffisent. Et donc le fait de présenter des candidats, d'arriver au pouvoir et petit à petit de modifier la législation, eh bien, permettra d'arriver à cet état socialiste. D'accord ? Les communistes, eux, qui ont encore une fois le même objectif que les socialistes, n'ont pas du tout la même approche, puisque ils sont éminemment révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la prise du pouvoir ne peut être que par la force. Et il rejette complètement toute idée de respect du jeu démocratique. Karl Marx a eu des mots très durs contre la démocratie, contre le régime parlementaire, parce qu'à cette époque, à l'époque dont on est, en 1917, mais même pendant très longtemps, les communistes considéraient que le système démocratique, les démocraties parlementaires, en fait, ont été créées par la bourgeoisie et que ce jeu démocratique est contrôlé par la bourgeoisie. Parce que celui qui possède les capitaux, celui qui possède l'argent, possède la presse, possède la police, possède tout l'appareil d'État, et que dans cette situation, eh bien, les ouvriers, même s'ils sont en soi majoritaires, eh bien, n'arriveront jamais à l'emporter. Et ça, c'est très important, parce que c'est ce qui explique la réussite du coup de force des bolcheviks en 1917. En 1917, en octobre, les bolcheviks sont très peu nombreux. La majorité des Russes qui se rapprocheraient d'un sentiment et qui partageraient les convictions socialistes sont ce qu'on appelle des socialistes, c'est-à-dire qu'ils considèrent que par le truchement des élections, eh bien, ils arriveront au pouvoir sans la violence. Alors qu'une petite minorité extrêmement organisée, extrêmement disciplinée, qui est prête, en gros, à mourir pour ses idées, eh bien, va réussir à prendre le pouvoir. Donc ça, c'est la différence que l'on fait généralement entre socialisme et communisme. Donc j'en reviens à ce que je disais. Pour les marxistes, la mise en place du socialisme passe par des étapes nécessaires qui sont la révolution et la dictature du prolétariat. Ce que l'on appelle la dictature du prolétariat, c'est une théorie qui a été formulée, théorisée par Marx. C'est le moment où la classe ouvrière, en gros, supprime l'ordre bourgeois, confisque les moyens de production, prend le pouvoir et, en gros, élimine tous les opposants réels ou théoriques à son accession au pouvoir. Et ce n'est qu'une fois que cette dictature du prolétariat se sera produite que l'on pourra obtenir ce fameux État socialiste, c'est-à-dire sans classe sociale, ni riche, ni pauvre. Voilà. Voilà pour, en gros, la présentation théorique de ce qu'est le marxisme, de ses fondements idéologiques et de sa prise du pouvoir. Alors, quel est le rapport avec le chapitre et avec la foi catholique ? Eh bien, le communisme fait partie des deux seuls systèmes idéologiques qui ont été officiellement condamnés par l'Église. Avec le nazisme, il n'y en a pas 50 dans l'histoire, il n'y en a que deux, le nazisme et le communisme. Pardon ?
Le fascisme,
non ? Non, jamais. Non, 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 non. Au contraire, il a été encouragé par l'Église, le fascisme. Vous savez que le fascisme, aujourd'hui, est mis dans le même panier que les régimes totalitaires que furent le communisme et le nazisme, parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l'alliance de l'Axe, l'Axe Rome-Berlin, l'Italie s'est rapprochée de l'Allemagne. Mais à l'origine, le fascisme était plutôt encouragé par l'Église.
Enfin, il y avait des fondements quand même païens.
Non, parce que le fascisme, en fait, accorde énormément d'importance à l'État, puisque, en gros, ce qui est sacralisé pour les nazis, c'est la race. Ce qui est sacralisé pour les communistes, c'est la classe ouvrière, le prolétariat. Chez les théoriciens du fascisme, c'est l'État qui est sacralisé. Mais en Italie, cette sacralisation restera pendant très longtemps théorique. C'est-à-dire qu'en Italie, un certain nombre de libertés ont été laissées. Et c'est pour ça que le fascisme ne peut pas être considéré comme un totalitarisme, ou à la limite comme un totalitarisme inachevé ou incomplet. Par exemple, en Italie, dans les années 30, l'économie de marché était respectée. Il n'y avait pas un monopole de l'État sur toute l'économie. La liberté religieuse était en partie respectée. Les accords de Latran, ils ont été signés entre le pape et Mussolini. Ce que l'Église avait condamné, notamment dans l'Allemagne nazie et dans le régime communiste, en URSS, c'était que l'État, en fait, voulait mettre la main sur toutes les organisations de jeunesse et, en gros, déraciner les jeunes, les arracher à leur famille, les arracher aux organes traditionnels de la société pour les embrigader. En Italie, la liberté religieuse était respectée et les églises, les écoles chrétiennes, les mouvements scouts, les mouvements de jeunesse, les œuvres catholiques n'étaient pas interdites. Donc le fascisme n'a jamais été condamné par l'Église, il a même été en partie encouragé, sauf bien évidemment lorsqu'il a porté atteinte à des droits fondamentaux et qu'il y a eu des persécutions contre les minorités juives. Mais le fascisme n'a jamais été condamné par l'Église. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais c'est une réalité. Il faut bien penser que Mussolini, avant de se rapprocher de l'Allemagne, donc 1935-1936, était assez bien vu, que ce soit en France ou même en Italie, parce qu'il a contribué à mettre fin à un certain nombre de... Il a contribué à moderniser une partie importante de l'économie italienne. Donc j'en reviens. Bon, le sujet, ce n'est pas le fascisme, c'est le marxisme. Donc revenons-en au fascisme. Non, pardon, au communisme. Donc le communisme, comme le nazisme, vont être tous les deux condamnés par l'Église en 1937. Donc vous devez retenir le nom des deux encycliques. Pour ce qui est du communisme, donc c'est l'encyclique Divini Redemptoris, qui est publié le 19 mars. Quelle fête ? 19 mars ? Voilà, Saint-Joseph, 19 mars 1937. Donc Divini Redemptoris, ce qui veut dire le divin rédempteur, et c'est une encyclique du pape Pie XI. Dans cette encyclique, qui va vraiment faire grincer des dents le bloc communiste, on peut lire que le communisme est intrinsèquement pervers. Donc c'est une condamnation profonde. Le communisme est intrinsèquement pervers. Et, dixit le pape, l'on ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Donc là, il y a une condamnation non seulement du communisme, il est intrinsèquement pervers, et surtout, on ne peut admettre sur aucun terrain la collaboration avec lui de la part de quiconque veut sauver la civilisation chrétienne. Donc c'est une allusion à ce que l'on entendra plus tard sous le terme de compagnon de route du communisme, c'est-à-dire les personnes qui considèrent que l'on peut travailler, que l'on peut s'allier à certains moments avec le communisme. Je vous renvoie au célèbre discours du président Kennedy à Berlin. Ich bin ein Berliner. Tout le monde a retenu la phrase « Je suis berlinois », mais le fond de ce discours, qui a lieu pendant la guerre froide, c'est que non, il n'y a pas de collaboration possible avec ce régime totalitaire. 1937, ce n'est pas une année neutre, parce que quelques jours plus tôt, le 10 mars, donc 9 jours avant, le 10 mars, le pape Pie XI, toujours, a publié une autre encyclique qui s'appelle Mit Brennender Sorge. Mon accent allemand n'est pas terrible, je préfère vous prévenir. Et cette encyclique condamne, elle, le nazisme.
C'est quoi le nom de l'encyclique ?
Mit Brennender Sorge, S-O-R-G-E. Donc je répète le nom des deux encycliques. Le premier nom, celle qui condamne le communisme, elle est en latin, et c'est Divini Redemptoris, 19 mars 1937. L'autre encyclique, qui date, elle, du 10 mars, qui est sortie juste avant, Mit Brennender Sorge, elle condamne le nazisme. Alors pourquoi est-ce que le pape a publié ces deux encycliques pratiquement coup sur coup ? Exactement. S'il n'avait condamné que le nazisme, on aurait pu dire, tiens, il condamne le nazisme, donc peut-être qu'il soutient ou qu'il soutiendrait le communisme, puisqu'à ce moment-là, je veux dire, on est à 2 années de la Seconde Guerre mondiale, et tout le monde voit bien que les deux grands régimes qui s'opposent, les frères jumeaux ennemis, comme disait l'historien François Furet, eh bien, sont face à face, et si forcément on condamne l'un, mais pas l'autre, par un jeu d'amalgame, on pourrait penser à croire que si on condamne un et pas l'autre, on soutient l'autre. Par ailleurs, donc Pie XI ne veut pas être accusé de soutenir l'URSS en condamnant le nazisme, et d'autre part, à ce moment-là, il faut toujours songer au contexte, en Espagne, c'est l'époque de la guerre civile. Or, vous le savez probablement, la guerre civile d'Espagne est une guerre civile, donc terrible, comme toutes les guerres civiles, pendant lesquelles l'Église catholique est violemment attaquée par les partisans du communisme, puisque de nombreux prêtres, religieux, religieuses, sont massacrés par des bandes armées composées d'anarchistes ou de communistes qui pillent les églises et qui n'hésitent pas à massacrer les religieux et même jusqu'à profaner les tombes des couvents. Donc dans ce contexte terrible de guerre civile espagnole, eh bien, le pape juge qu'il est le plus pertinent de condamner à la fois ces deux grands régimes totalitaires. Alors, en quoi tout cela est-il condamnable ? C'est quand même peut-être ça qui nous intéresse aussi. Je regarde l'heure qu'il est. Mais ça fait presque une heure alors. Ok. Alors, une réfutation du communisme en 5 points. Ça vous va ? Il nous reste 5 minutes. Réfutation du communisme en 5 points. C'est parti. Première réfutation pour laquelle le pape prend sa plume pour condamner cette idéologie, c'est tout d'abord que la société communiste, enfin le communisme, borne le destin de l'homme à la vie terrestre. Pour le communisme, en gros, la vie terrestre est la seule et unique fin de l'homme. Or, le pape rappelle que l'être humain, que l'homme, a une âme spirituelle et immortelle. Qu'il est une personne qui est pourvue par le Créateur d'un corps et d'un esprit. Et qu'à lui seul, l'être humain, l'âme humaine, une personne, a éminemment plus de valeur, que l'ensemble de l'immense univers inanimé. Je cite un passage donc de l'encyclique Divini Redemptoris. Le communisme dépouille l'homme de sa liberté, principe spirituel de la conduite morale, et il enlève à la personne humaine tout ce qui constitue sa dignité. On ne reconnaît en gros à l'individu, dans l'idéologie communiste, on ne reconnaît à l'individu, en face de la collectivité, aucun des droits naturels à la personne humaine. Dans le communisme, en fait, l'être humain n'est qu'un rouage du système. Il n'est qu'une pièce de la mécanique, de cette mécanique qui prétend eh bien, apporter le bonheur à l'humanité uniquement à travers le matérialisme et une organisation scientifiquement élaborée. Deuxième élément qui justifie la condamnation de l'Église, c'est le rapport à la propriété privée. Vous savez que pour les socialistes, comme disait un des premiers socialistes, Proudhon, la propriété, c'est le vol. Et la notion de propriété privée est abolie dans un État socialiste. Or, l'Église rappelle que la propriété privée personnelle est considérée comme légitime. Pourquoi ? Parce que l'Église voit dans la possession des biens terrestres un moyen d'accéder aux biens célestes, si, bien évidemment, l'on en fait un usage raisonnable, réglé par l'esprit de pauvreté volontaire. Donc, bien évidemment, l'accumulation de richesses, pour elle-même, n'est pas conforme à l'enseignement de l'Église, mais la propriété privée peut être un moyen, d'accéder aux biens célestes. Les richesses, nous dit saint Thomas d'Aquin, sont un bien en tant qu'elles servent à l'exercice de la vertu. Donc l'Église ne condamne pas la propriété privée. Autre élément, donc troisième élément, condamné par le pape, dans cette encyclique, c'est la famille. La famille disparaît en plus ou moins, en partie, dans le régime communiste. Et là, je cite encore une fois le pape Pie XI. En refusant à la vie humaine tout caractère sacré et spirituel, le communisme fait nécessairement du mariage et de la famille une institution purement conventionnelle et civile, fruit d'un système économique déterminé. En gros, le rôle de la famille, sa dimension éducative, non seulement sur le plan humain, affectif, mais surtout spirituel, est nié par le communisme. Donc le communisme entraîne là aussi une disparition de la famille. Autre élément encore reproché au communisme dans l'encyclique de Pie XI, les groupements naturels et corps intermédiaires sont pulvérisés. Tous les États totalitaires, que ce soit en Allemagne ou en URSS, vont chercher à détruire les groupements naturels et les corps intermédiaires. C'est ce qui permet de renforcer l'emprise de l'État sur l'individu. Ce sont des mots du pape Pie XII qui peuvent nous éclairer. L'État ne contient pas en lui-même et ne réunit pas mécaniquement dans un territoire donné une agglomération amorphe d'individus. Il est et doit être en réalité l'unité organique et organisatrice d'un vrai peuple. Donc ça, c'est un point important, hein, la disparition des corps intermédiaires. Donc les écoles, les paroisses, même les organisations professionnelles. Et enfin, dernier point réfuté par l'encyclique, c'est l'État qui tendrait à disparaître après avoir été l'instrument de la collectivisation. Parce que pour les communistes, une fois que la révolution et la dictature du prolétariat ont eu lieu, une fois que, en gros, la collectivisation a été mise en place, l'État est censé disparaître. Donc ça, c'est formidable, plus d'État. L'État est censé disparaître. L'Église, au contraire, est attachée à la notion d'État. L'Église n'est pas contre l'État. Pas plus que la disparition des corps sociaux intermédiaires, l'Église ne souhaite la suppression de l'État. Le pape Pie XII, alors je ne sais plus dans quel message est-ce qu'il dit ça, je crois que c'est lors d'un message, dans une allocution au consistoire, donc en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, Pie XII disait « Les deux colonnes principales de la société humaine sont la famille et l'État. Appuyés sur ce fondement, ils peuvent remplir sûrement et parfaitement leur rôle respectif. La famille en tant que source et école de vie, et l'État en tant que gardien du droit et de la justice, qui a, comme la société dans son ensemble, son origine prochaine et sa fin dans l'homme complet, à l'image de Dieu. » Donc voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le marxisme. J'imagine que vous connaissiez déjà beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'analyse du communisme peut sembler ne plus être pertinente parce que, mis à part la Corée du Nord, il n'y a plus de menaces comme c'était le cas jusque dans les années 80, avec des divisions blindées soviétiques prêtes à traverser la frontière et à nous débouler dessus. Donc même si le communisme aujourd'hui n'est plus une menace géopolitique, je veux bien que Jean-Luc Mélenchon ait pris quelques points dans les sondages, mais il n'est quand même pas encore élu président, on en est loin. Le communisme, en fait, aujourd'hui survit à travers... non plus à travers un parti ou à travers le rêve d'une société, comment dire, d'une société sans classe, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'opinion est beaucoup plus marquée par le libéralisme et le relativisme que par l'athéisme, en tout cas que par l'athéisme militant. Mais je voudrais conclure quand même en parlant de la Russie. En parlant de la Russie qui, pendant 70 ans, a été la victime, le cobaye, sur lequel, qui a subi la persécution religieuse, qui a subi l'embrigadement. Aujourd'hui, la Russie, qui est sortie du communisme, eh bien, est potentiellement une voie d'avenir, une expérimentation politique d'avenir, parce qu'il y a un véritable réveil religieux extrêmement profond en Russie. Comme si, en quelque sorte, la Russie, de par... son emprisonnement dans la prison du communisme, dans la forteresse du communisme, avait été en partie protégé du fléau qui s'abat aujourd'hui sur l'Occident, sur le monde occidental, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, qui est celui du relativisme, du consumérisme à outrance et du libéralisme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il est intéressant de regarder vers l'Est, vers la Russie, parce que c'est à terme, je crois, une source, je l'espère, profitable de renouveau géopolitique pour l'Occident. Et ça l'avenir nous le dira. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas trop vous assommer de théories économiques ou de passages des encycliques qui parfois sont intéressants à lire, mais à écouter sont plus difficiles, plus secs, plus ardus. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Et si vous avez des questions et qu'on a un peu de temps, on pourra y répondre. Voilà, merci.